vote les Républicains avant les présidentielles du 3 novembre. Donald Trump, de son côté, serait prêt finalement à s'aligner sur le montant de 2200 milliards de dollars proposé par les démocrates. Pour ce qui est des entreprises à Paris, Danone s'est repris de 0,3%, sauf erreur des cotations, après avoir perdu 3,4% vendredi. Le groupe a annoncé ce lundi de nouveaux objectifs 2020 et un vaste plan de réorganisation. C'était Cécile Locose d'Investir pour RFI.
Merci, et c'est ainsi que se termine ce journal. Il est 18h10 à Paris, 16h10 en temps universel. Radio G. 101.5 FM.
Et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de votre quotidienne des actualités culturelles et locales, l'oreille curieuse. Parfois avec les échos des actualités nationales et mondiales, j'espère que je ne vous ai pas dit mondiale précédemment, on se demande un peu le sens qu'il peut y avoir à parler de la culture, entre autres ici et maintenant. Mais bon, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on défend ? Alors, aujourd'hui lundi, nous retrouvons l'un de nos partenaires, Angers Nantes Opéra. Désormais, on retrouvera cette maison de création un lundi par mois. Aujourd'hui, outre le plaisir de découvrir la programmation de cette nouvelle saison, nous plongerons particulièrement au cœur d'une tragédie, celle d'Iphigénie. La dernière création du metteur en scène Julien Ostini, Iphigénie en Tauride, sera sur la scène du Grand Théâtre d'Angers, ce vendredi à 20h et ce dimanche à 16h. C'est un spectacle qui vous promet de fortes émotions. On est ensemble jusqu'à 19h ce soir, car oui, on a beaucoup de choses à se dire, je pense. L'émission de ce jour a été préparée et réalisée par Anne-Lee, et le proverbe que je partage avec vous aujourd'hui est « Les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas ». Bien entendu, on débute l'émission en musique avec une première écoute issue d'Iphigénie en Tauride, et c'est « Oh, malheureuse Iphigénie », une musique composée par Gluck et dont on parlera juste après.
Oh,
aujourd'hui, on retrouve une de nos structures partenaires. Je suis très contente qu'on se retrouve à nouveau en studio. Je suis avec Alain Surance, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes le directeur de Angers-Nantes Opéra.
C'est cela, oui.
On a été ensemble à l'antenne la saison dernière et peut-être même celle d'avant, je crois.
Oui, oui. Ça fait deux, c'est la troisième saison.
C'est la troisième, où chaque mois on présente les prochains spectacles et toutes les actions, tout ce qui se passe dans votre maison. On va pas forcément revenir sur cette saison complètement bousculée, chamboulée, enfin, comme vous le souhaitez.
On n'a pas très envie de parler des choses qui fâchent.
On est tourné vers l'avenir là.
On est tourné vers l'avenir, résolument.
Résolument vers l'avenir. Donc cette saison, elle est initiée. Elle est dynamique, elle est toujours très diverse. On va retrouver Ça va mieux en le chantant, le cycle où on peut découvrir plein de traditions vocales, je dis ça comme ça, et chanter en tant que public.
Oui, c'est ça, ce sont ces concerts autour du chœur de nos deux artistes en résidence, Marie-Bénédicte Souquet et Marc Scofoni, qui vont animer donc ces moments de plaisir, de rencontre, de découverte ou de redécouverte de l'opéra, mais pas que, puisqu'il s'agit aussi de faire un écho à ce qui est notre culture vocale. Donc il y aura des choses extrêmement diverses, comme chaque saison, cinq rendez-vous au Grand Théâtre d'Angers à 19h avec une espèce de kaléidoscope des moments forts de l'opéra, des sources d'inspiration de l'opéra. Donc nous allons commencer avec Des voix sous les étoiles, donc une évocation de la nuit. Il y aura plus tard quelque chose de très amusant en décembre qui s'appelle du pom 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 au shabadabada, pour faire vivre et partager tout ce qui dans l'opéra, dans le répertoire contemporain aussi, s'amuse avec les bruits de bouche, les onomatopées, et Dieu sait qu'il y a des choses absolument formidables, y compris bien sûr dans le répertoire d'opéra, ouais, avec des compositeurs comme Rossini.
Qui n'est pas si sérieux ou pas que sérieux.
Oui, il y a beaucoup de plaisir en fait. C'est d'ailleurs la constante de nos concerts Ça va mieux en le chantant. Il s'agit vraiment de prendre du plaisir avec l'opéra, avec des répertoires qui peuvent être très divers et pour certains d'ailleurs renvoient vers d'autres univers musicaux que celui de l'opéra.
Ouais, et en parlant d'autres univers musicaux, il y a toujours aussi cette programmation Voix du Monde, où là on sort du chant lyrique, opéra, pour aller voir plein de traditions, de techniques différentes.
Oui, l'idée, c'est effectivement d'ouvrir nos oreilles sur d'autres mondes, de voir à quel point et d'entendre à quel point la voix est importante dans plein d'autres civilisations et depuis toujours. Alors, nous aurons des très belles voix comme celle de Wahed Bouhassoun au tout début de l'année 2021, qui est une artiste vraiment fabuleuse, qui est syrienne, qui s'accompagne au oud et qui chante la grande poésie arabe. C'est absolument sublime. Et puis, nous aurons aussi deux plongées dans des univers qui sont assez proche de l'opéra, des univers où danse, chant, théâtre, musique se mélangent. Il y aura la venue d'une troupe extraordinaire de Madagascar, parce qu'il y a des formes à Madagascar, un peu de spectacle total, ça s'appelle Hiragassi. Et puis de l'opéra chinois en fin de saison. L'opéra chinois aussi, c'est une très grande tradition. C'est une troupe qui vient du Yunnan et qui est une troupe qui se consacre à ce genre, parce que quand on parle d'opéra de Pékin, on parle d'un genre en fait, où se mélange aussi non seulement le chant, la danse, la musique, mais aussi l'acrobatie, parce qu'il y a quelque chose de très spectaculaire toujours dans ce type de spectacle. Donc voilà, des ouvertures sur le monde et sur la manière dont on conjugue les disciplines qui sont celles de l'opéra sous d'autres cieux.
Oui, là on survole la saison d'Angers-Nantes Opéra, tout ce dont on va parler aussi dans les émissions hein, chaque mois, donc on va pas tout voir aujourd'hui, il faut qu'on en garde en réserve. Il y aura aussi du cinéma en lien avec l'opéra. Et là, le prochain rendez-vous dont on va parler plus particulièrement ce soir, c'est Iphigénie en Tauride. Donc c'est cette fin de semaine, vendredi à 20h et dimanche à 16h. Alors là, je me confie un peu à votre expertise au niveau de la musique. C'est un opéra composé par Christoph Willibald Gluck, J'ai bien dit.
Oui, on dit Gluck. C'est un compositeur autrichien, mais qui a été formé en Italie, qui a eu beaucoup de succès aussi en Angleterre, en Autriche, bien sûr, où il est décédé, et puis en France. Mmh. Et c'est quelqu'un qui a donc eu un parcours tout à fait international, mais qui a su en France vraiment modeler la musique sur notre langue, comme l'avait fait avant lui Jean-Baptiste Lully ou Jean-Philippe Rameau. Et c'est étonnant de voir que dans l'histoire de l'opéra français, il y a au début un Italien qui s'appelait Lully qui a fait ce travail de prosodie chantée magnifique. Et en fin de parcours, juste avant la Révolution, cet Allemand, Gluck, qui lui aussi a fait rejaillir en fait cette magnifique tradition de tragédie chantée. Et c'est vraiment quelque chose de bouleversant. Il donne à l'orchestre un rôle qui est complètement neuf à l'époque, hein. C'est l'orchestre symphonique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est l'orchestre de Mozart, c'est l'orchestre national des Pays de la Loire qui sera donc en fosse pour cette Iphigénie en tauride. Il faut savoir que cet orchestre a une palette lui-même tout à fait extraordinaire, hein. C'est un orchestre qui joue plus de 2,5 siècles de répertoire et qui est particulièrement à son aise dans ce répertoire, puisque nous aurons la phalange angevine, c'est-à-dire les musiciens angevins qui, évidemment, sont depuis toujours les musiciens qui jouent au Grand Théâtre d'Angers. Mmh. Ce sont des musiciens formidables que j'aime beaucoup et qui adorent ce répertoire. Les répétitions ont été faites à Angers. Ça, c'est un retour aussi aux origines. Hein, puisque...
Oui, parce que faut préciser qu'avec Angers Nantes Opéra, vous êtes entre deux villes.
Voilà,
Angers,
nous travaillons sur les deux villes, et il y avait très longtemps qu'on n'avait pas monté une production au Grand Théâtre. Le Grand Théâtre a une équipe absolument magnifique, une équipe technique en particulier, donc nous sommes très heureux de revenir au Grand Théâtre en production. C'est-à-dire, les répétitions ont lieu en ce moment au Grand Théâtre, et c'est ensuite que cette production d'Iphigénie en tauride sera donnée d'abord à Rennes, puis ensuite à Nantes. Donc nous totaliserons 12 représentations de cet ouvrage, et nous en sommes très heureux.
Ouais, parce que c'est effectivement une nouvelle création. Donc la mise en scène est de Julien Ostini, qu'on entendra tout à l'heure, sera notre deuxième invité. Peut-être, alors Iphigénie, ça parle, on est dans la tragédie grecque. Elle a une famille très compliquée, puis je sais qu'elle s'est confiée à vous aussi, on y reviendra sans doute. Comment résumer un petit peu cet univers d'Iphigénie en tauride? C'est assez sombre, ça peut être un peu violent aussi.
Oui, c'est l'histoire des Atrides, hein. C'est cette histoire monstrueuse qui se passe à Mycène, où Agamemnon, le roi des rois, est époux d'Hélène, et le prince troyen aîné lui fauche sa femme, et c'est parti pour la guerre de Troie. Il a une fille Iphigénie que les dieux lui demandent de sacrifier pour que la flotte puisse partir, parce que pour l'instant il n'y a pas de vent. Au moment où il va sacrifier sa fille, ce qui est tout de même pas rien, la déesse Diane intervient, enlève Iphigénie et l'emmène en tauride. Et c'est là où nous allons retrouver donc Iphigénie en tauride, des années plus tard. Entre-temps, Agamemnon a été tué par sa femme Clytemnestre.
Il faut prendre des notes.
Clytemnestre a été tué par leur fils Oreste, qui est donc le frère d'Iphigénie. Et en fait, Iphigénie en tauride raconte les retrouvailles d'Oreste et d'Iphigénie. Au début, ils ne se reconnaissent pas, évidemment, donc il y a un quiproquo qui se résoudra à la toute fin. C'est une histoire sombre, alors qui fait écho aussi à des histoires antérieures, puisque les Atrides, les grands-parents, les arrière-grands-parents d'Iphigénie avaient vécu déjà des choses abominables. Cette tragédie grecque dans toute sa splendeur morbide, mais qui se termine effectivement par un moment où les dieux décident de laisser les humains se débrouiller entre eux et d'arrêter d'intervenir.
D'arrêter de mettre un gros bazar.
Voilà, d'arrêter de les dresser les uns contre les autres, de les pousser au crime. Et c'est, avec le personnage d'Oreste, c'est une espèce d'aube nouvelle qui peut s'annoncer, qui peut commencer, et c'est à la toute fin de cette tragédie d'Iphigénie en tauride.
Bon, on peut y aller même si on ne connaît pas très bien la tragédie grecque.
Ah bah non, on vous raconte l'histoire, donc c'est comme toujours à l'opéra, c'est comme au cinéma, vous n'avez pas besoin de savoir au cinéma ce qui va se passer, vous le découvrez, à l'opéra c'est pareil, et toute l'histoire est extrêmement claire, extrêmement bien exprimée, avec des sentiments qui sont d'une violence extraordinaire. J'ai pu assister à la première répétition d'orchestre dirigée par notre chef, le directeur musical de la production, qui s'appelle Diego Fasolis, qui est un formidable spécialiste de ce genre. Et on peut dire que l'orchestre est vraiment un des protagonistes du drame, puisque c'est lui qui donne ses couleurs extraordinaires à tous ces sentiments passionnés, éruptifs. Il y a de la tempête dans les chœurs, à quoi fait écho évidemment toujours une tempête extérieure qui est incarnée par l'orchestre.
Ouais. C'est un spectacle qui dure combien de temps à peu près ?
Avec l'entracte, ça dure 2h20 à peu près.
Ça va, c'est relativement court.
Oui, c'est pas l'un des plus longs opéras du répertoire, non.
Ouais.
C'est un ouvrage qui file vraiment d'une traite. Il y a un souffle extraordinaire qui est vraiment le souffle de la musique et d'un texte qui est très beau. Bon, il faut savoir que Iphigénie, c'est Racine, hein, d'abord. Bien sûr, vous avez Euripide dans l'Antiquité, Racine. Vous avez, à la même époque d'ailleurs, une Iphigénie en Tauride, à la même époque que Gluck, écrite par Goethe aussi. Donc c'est un thème qui a beaucoup séduit les plus grands écrivains, les plus grands dramaturges et qui... voilà, illustre vraiment aussi quelque chose sur la beauté et l'expressivité d'une langue et dans notre cas du français.
Et autour donc de cette nouvelle création, Iphigénie en Tauride, donc qui est en dernière répétition en ce moment même, vous avez avec Angers Nantes Opéra imaginé un web documentaire, une série de vidéos qui nous permet de découvrir la création d'un opéra. Comment ça se passe avec tous les aspects d'un opéra? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet et de comment et pourquoi vous l'avez imaginé?
Alors, ce projet vient de la crainte que nous avons eue de ne pas pouvoir présenter en public cette production d'Iphigénie en Tauride quand nous avons commencé à la monter, parce que on a tellement eu peur d'un reconfinement, d'une nouvelle fermeture des théâtres. On était tout de même très angoissés. Donc l'idée, ça a été d'abord d'organiser une captation de manière à pouvoir diffuser éventuellement le spectacle sur des télévisions, sur les réseaux sociaux. Et ça va effectivement avoir lieu le 25 octobre. Nous aurons donc les caméras de plusieurs télévisions. Il y a notamment Le Mans TV, Télé Nantes, TV Tours, et les trois chaînes de la Bretagne autour de TVR. Donc il va y avoir une retransmission en direct sur ces chaînes de télévision et évidemment bien sûr sur internet, sur YouTube, sur le Facebook de l'opéra d'Angers Nantes Opéra, etc.
Donc ça, c'est aussi des nouveaux moyens.
Ça permet de toucher de manière assurée des publics et peut-être des nouveaux publics à cette occasion.
Ouais.
Et justement, pour accompagner ces nouveaux publics, nous leur proposons de suivre 15 épisodes de 5 minutes d'une petite web série. Donc, les 8 premiers épisodes vont être diffusés d'ici à la création de la production le 23 octobre. Et plus tard, en fin novembre, début décembre, nous aurons 7 autres épisodes avant les représentations de Rennes et de Nantes.
Ouais.
Voilà, ça raconte, ça raconte comme une espèce de kaléidoscope de ce que sont les métiers de l'opéra. Donc les premiers épisodes à suivre sur YouTube sont consacrés au décor, à la lumière, au costume, et puis bien sûr aux personnages, à la mise en scène, aux sources d'inspiration également, puisque il y a dans les collections du musée d'Angers par exemple beaucoup de tableaux qui sont très intéressants à regarder dans l'optique de cette inspiration grecque de la mythologie, la place de la mythologie dans la culture générale du 19e siècle, c'est quelque chose, et bien sûr aussi au 17e et au 18e, à l'époque de Gluck. Et puis le chef d'orchestre qui a bien des choses à dire et qui les dit magnifiquement, notre metteur en scène Julien Ostini, les protagonistes, les musiciens de l'orchestre qui ont aussi des choses passionnantes à dire sur leur métier. C'est le moyen de voir voir un peu l'envers du décor, c'est le moyen de découvrir des aspects qu'on ne voit pas très très souvent hein, de nos maisons d'opéra, qui sont des lieux assez fascinants, parce que tellement de corporations concourent à une production d'opéra à différents moments. C'est comme une espèce de ruche. Voilà, c'est une ruche avec chaque abeille qui a son rôle à un moment donné. C'est toujours très intéressant, c'est toujours passionnant pour nous de montrer aussi ce que nous faisons, parce que l'opéra, c'est tout de même le spectacle le plus formidable de notre histoire. Et puis aujourd'hui encore, c'est l'endroit du faste, c'est l'endroit du merveilleux, du fantastique, et puis des passions exacerbées. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on découvre différemment quand on peut un peu visiter la coulisse.
Et effectivement, il y a tous les aspects abordés, enfin, c'est très joyeux aussi, et puis de voir tout ce travail, c'est très amusant. Et puis vous avez choisi aussi une façon de l'aborder un peu décalée aussi, vous vous êtes transformé.
Oui, c'est vrai que comme fil conducteur, nous avons entrepris une psychanalyse d'Iphigénie. Ça permet aussi donc aux spectateurs de cette série de découvrir cette histoire des Atrides. C'est intéressant tout de même de la connaître un peu avant pour comprendre d'où part tout cela. Donc, Iphigénie se raconte...
Proche de nous aussi.
Oui, c'est ça. Elle se raconte d'une part avec des vers tirés des tragédies, mais d'autre part avec notre langage à tous, et elle raconte toutes ces histoires insensées de coucheries, de meurtres qui évidemment ont toujours quelque chose d'un peu spectaculaire et d'un peu répulsif même hein, dans la bouche d'une jeune fille. C'est quelque chose de très fort, et on s'est beaucoup amusé donc à mettre en situation l'histoire des Atrides dans la bouche d'Iphigénie sous la forme d'une psychanalyse.
Une question-réponse. Voilà. Et il y a déjà les premiers épisodes qui sont en ligne. Je les mettrai en lien sur la page du podcast de l'émission.
Ah oui, il faut les mettre. Il faut faire connaître ça. C'est vraiment une manière magnifique de parler d'opéra et de faire goûter à l'opéra.
Ouais, effectivement, voir vraiment ce travail de coulisses est très très intéressant. Voilà, je vous invite à le découvrir. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez partager avec nous sur cette Iphigénie en tauride ?
Bah, dire un mot tout de même sur les chanteurs, parce que pour Iphigénie, il faut des chanteurs d'un calibre tout à fait particulier. C'est-à-dire, il faut vraiment des grandes voix. Il faut des chanteurs qui ont des voix extrêmement grandes, parce que c'est l'époque où l'orchestre commence à devenir très, très important. Donc, les voix doivent couvrir... planer au-dessus de cet orchestre, et doivent avoir une capacité expressive très 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 développée. Nous avons une Iphigénie de rêve qui s'appelle Marie-Adeline Henry, qui va porter ce rôle de manière vraiment magnifique. Et puis pour les trois rôles masculins, celui de Thoas, le chef des Scythes, donc de ces barbares chez qui Iphigénie a été transportée, celui de Dorès, le frère, celui de Pilate, son meilleur ami, sont des rôles qui demandent vraiment des capacités pas ordinaires. Et voilà, je suis assez fier de Jean-Luc Balestra pour Thoas, de Charles Rice qui avait déjà chanté Hamlet avec nous précédemment, avec un grand succès, et qui est un Oreste formidable, torturé comme il faut, et la voix très solaire de Sébastien Droit, qui est un magnifique ténor français avec une diction à tomber par terre. C'est vraiment le personnage, en plus cette bienveillance du personnage de Pilate qui est l'ami proche d'Oreste, elle est dans le timbre même de la voix de cet artiste, et donc je suis très très heureux de cette distribution qui me fait grand plaisir.
Puis ça fait du bien de retrouver le théâtre, la salle.
Ça fait du bien de retrouver nos théâtres, celui de le Grand Théâtre d'Angers, le théâtre Gralin qui a ouvert la semaine dernière sa saison avec un ciné-concert. Voilà, nous revivons Et c'est vrai que les mois passés, hein, depuis mars, ont été vraiment très très durs pour toutes les équipes. Donc nous sommes évidemment un peu survoltés par ce très beau projet que nous sommes heureux évidemment de présenter au public en juin.
Ouais, je redonne les dates donc pour Iphigénie en Tauride à Angers, vendredi à 20h. Au Grand Théâtre, bien sûr, et dimanche 25 octobre à 16h. Sachant que le dimanche, il y aura un bord de scène. On pourra échanger avec les interprètes, les équipes, à l'issue de la représentation. Alors, si on le souhaite, hein, vous faites bien comme vous voulez. Et il y a aussi une garderie qui est mise en place. Si vous voulez venir et que vous ne savez pas comment faire garder vos enfants, ils sont gardés par Angers Nantes Opéra et des personnes compétentes, bien sûr. Et c'est gratuit, ça aussi.
Et c'est gratuit.
C'est formidable. Alain, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va écouter un extrait d'Iphigénie. Et puis juste après, on va retrouver le metteur en scène, Julien Ostini.
Yeah.
êtes à l'écoute de Radio G et de Son Oreille Curieuse. L'émission est consacrée ce soir à Angers-Nantes Opéra, un des partenaires de l'émission, et on parle plus particulièrement ce soir de Iphigénie Antoride, dont on vient d'entendre un extrait. C'était Uni dès la plus tendre enfance. Et vous retrouverez ce spectacle ce vendredi à 20h et ce dimanche à 16h. Et maintenant, on va retrouver le metteur en scène. Julien Ostini, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes le metteur en scène d'Iphigénie Antoride. Vous, pour vous présenter en quelques mots très rapidement, vous êtes né à Genève et vous avez découvert le théâtre jeune quand vous étiez enfant, à 6 ans, je crois.
C'est ça.
Et c'est par le théâtre que vous avez commencé la mise en scène, avec aussi des projets qui peuvent mêler des marionnettes. Enfin, je ne sais pas si vous avez envie de compléter cette très rapide présentation ou non.
Oui, oui, bah, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de tomber dans le chaudron de l'art vivant très tôt, à 6-7 ans, et puis j'ai jamais quitté les plateaux, donc j'ai expérimenté plein de types de formes différentes, de rencontres artistiques, entre le théâtre, la musique, les marionnettes, le théâtre d'objets, le théâtre de rue, le théâtre classique, enfin voilà, j'ai un petit peu tout exploré, et j'avais comme vision l'opéra comme une espèce d'art total et complètement fou de l'art vivant, et j'ai la chance maintenant depuis quelques années de pouvoir m'y amuser aussi.
Ouais, vous avez par exemple mis en scène Siegfried ou Faust, je crois. Comment vous êtes venu à la mise en scène d'opéra, qui est aussi un art, un contexte très particulier, très impressionnant aussi, j'ai l'impression.
Oui, bah alors, moi c'est vraiment parce qu'au départ j'ai une formation de violoniste, musicien, et j'ai fait une formation de chant en parallèle de mes années d'études de théâtre. Et très vite, moi j'étais un passionné de musique classique, un peu par accident comme ça. Mes parents n'étaient pas plus mélomanes que d'autres, on écoutait un petit peu toutes les musiques, et je me suis moi très vite intéressé à la musique classique et à l'opéra, parce que j'ai toujours fait ça assez facilement, le contexte des histoires, j'aime le trop en fait, j'aime l'art du trop, et trop long, trop d'émotions, les gens sont amoureux trop vite, ils meurent trop lentement, et en fait j'adore cette distorsion du temps qui permet d'aller dans l'extrême des émotions et de les faire durer et de les partager en fait. Très, très puissamment. J'ai fait mes études au Conservatoire de Genève, et puis assez vite, je suis allé embêter l'Opéra de Genève pour essayer de découvrir un petit peu les coulisses, et puis petit à petit, j'ai gravi les différentes marches, et j'ai réussi à convaincre le directeur de l'époque, Tobias Richter, de me confier justement Siegfried de Wagner en réduction pour un tout public d'1h15. Et puis à partir de là, c'était lancé, et j'adore faire de la mise en scène de théâtre, évidemment, mais l'opéra, c'est un autre métier, et c'est génial de pouvoir travailler avec la musique et de tout ce que la musique rajoute à l'image. En ça, on fait presque du cinéma en direct, en fait, et il y a quelque chose d'assez dément et d'assez fou et de génial dans l'opéra.
On sent que c'est un grand terrain de jeu. Là, pour Iphigénie Antoride, comment vous avez envisagé la mise en scène de cette tragédie ?
J'ai découvert cet ouvrage que moi je connaissais pas quand on me l'a proposé. Je remercie vraiment à l'assurance de m'avoir fait ce cadeau, parce qu'au début, moi j'ai adhéré tout de suite à l'idée de faire Iphigénie, parce que j'adore la mythologie, j'adore Racine, j'ai fait beaucoup de pièces de Racine, donc je trouvais le chant déclamatoire génial, mais je connaissais très mal la musique de Gluck, et j'avais même plutôt des a priori très négatifs sur cette musique. Et c'est vraiment en me plongeant dans la partition, dans l'écriture, que j'ai découvert le génie de cette écriture musicale, de la justesse du mot avec la note, des couleurs, des tempéraments. Et ça, en fait, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire vivre le même parcours au spectateur, quoi, qu'il y ait une vraie découverte de la musique et du sens. Et l'histoire d'Iphigénie est absolument contemporaine, comme tous les grands classiques, en fait, des préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui. Avec Antoas, qui est le dieu, qui est le roi des Scythes, qui possède des richesses illimitées par rapport à l'Europe de l'époque, parce qu'il a les grands champs d'or, et il est richissime, mais en même temps, de peur de devoir partager ou d'être détrôné par quelqu'un d'autre, il préfère exécuter tous les migrants qui viendraient sur sa terre. Voilà, c'est des préoccupations qui nous concernent aujourd'hui, la notion de l'innocence, d'Iphigénie. Donc, assez vite, j'ai eu envie de créer un espace scénique, un terrain de jeu où on puisse entendre tous les propos sans les codifier à une époque. Donc ne pas être dans une représentation dite classique ou temporelle du mythe d'Iphigénie, et ne pas non plus être dans une une transposition à notre époque avec un Thomas qui pourrait être une sorte de Trump ou voilà, je veux dire, ouais, de pas tomber de, mais de trouver un espace scénique qui soit quelque chose d'assez épuré et de lisible pour tous et que chacun puisse après, avec son imaginaire, avec son expérience, avec ses sentiments, remplir cet espace et combler et se raconter sa propre histoire. Ce qui m'amène à un décor avec un énorme monolithe de 9 mètres de haut au centre du plateau qui représente le temple, le trait d'union entre la terre et le ciel, qui représente aussi cette notion de la ruine du temple et des dieux et de cette aspiration qu'on a les uns avec les autres pour du divin, qui s'est transformée en fanatisme absolu. Et donc cette pierre, elle est complètement noircie, elle est en train de s'effondrer, et tout au long de l'opéra, en fait, elle s'enfonce dans le sol pour disparaître complètement à la fin. Mmh. Et vraiment donner cette idée de la transformation, de la destruction par l'égoïsme, par le besoin de se protéger de l'extérieur, qui fait qu'on perd toute forme et on se fait aspirer nous-mêmes dans quelque chose qui n'est plus humain.
Donc on peut imaginer qu'on est, vous le disiez, ni dans quelque chose d'historique, la Grèce, les colonnes, etc., ni transposé. Est-ce que c'est un espace un peu hors temps, un peu imaginaire?
Oui, c'est en tout cas un espace symbolique, en fait, avec une terre qui a un sable, qui est du sable qui est rouge, en fait, parce qu'Iphigénie, elle est condamnée à sacrifier tous les immigrés, tous les étrangers qui viennent sur cette terre. Et donc elle sacrifie des gens quasiment tous les jours, quotidiennement, depuis 25 ans. Donc ce sable, il est teinté du sang de toutes les victimes qui ont été immolées dans ce temple. Et ces énormes colonnes dont je parlais juste avant, qui fait vraiment le trait d'union central et qui s'effondre tout au long du spectacle. Il y a trois toutes petites colonnes qui marquent l'entrée du sanctuaire et qui s'effondrent pendant le spectacle. Et le disque, il y a un anneau, en fait, volant. Mmh. De 5 mètres qui représente Diane ou l'image qu'on se fait des dieux, qui sont interpellés tout au long de l'ouvrage et qui finissent par intervenir vraiment qu'à la fin et qui va venir souligner en fait la dramaturgie, l'histoire, la musique en suivant les personnages en scène comme une sorte de loupe en fait de gros œil qui vient accompagner l'histoire. Donc tout ça est très symbolique en fait, de manière à ce que ce pilier, on peut y voir le monolithe d'il y a 150 000 ans, où on peut y voir la pierre noire de la Mecque, le mur des lamentations, une colonne dans le temple. Enfin, chacun peut aller puiser dans son histoire personnelle pour s'approprier ce mythe et entendre ce qu'il y a d'universel à l'intérieur du mythe qu'on présente.
Vous, en tant que metteur en scène, vous êtes vraiment au croisement de tous les éléments, de ce qui vient faire un opéra, de ce qui vient faire une création, que ce soit le décor dont on a parlé, les costumes, la lumière, la scénographie. Enfin, c'est vraiment vous qui êtes la charnière, si je comprends bien. Comment s'est passé le travail aussi avec les interprètes?
Ouais, c'est un travail très riche, parce que c'est un ouvrage qui demande des interprètes très très juste, très fort, parce qu'il c'est du mot à mot, c'est du note à note. C'est un ouvrage qui propose de porter des émotions et différents sentiments qui sont très puissants, très dévastateurs et qui sont voilà, c'est de la tragédie pure. Donc j'ai la chance là de travailler avec un cast, une équipe assez fabuleuse qui se sont plu dans le projet, dans la conception du projet, et qui l'ont habité et qui le portent aujourd'hui mieux que ce que moi je peux en parler, en fait, ils se le sont vraiment approprié. Donc c'est un travail aussi sur la sincérité, sur la confiance les uns avec les autres, sur l'envie de transcender cette musique et cette histoire pour la transmettre au plus grand nombre. Et donc là-dessus, on a voilà un cast assez fabuleux entre Marie-Adeline en Iphigénie, Charles Reiss en Orest, et puis Sébastien Droit, Pilate. Enfin voilà, c'est une superbe équipe avec laquelle on travaille depuis maintenant un mois et avec laquelle on a construit petit à petit cet édifice.
Et est-ce que ces temps de travail, de calage, de précision, de grande précision, est-ce que ça vient aussi faire évoluer le projet tel que vous l'avez conçu? Parce que vous venez aussi déjà avec toutes vos idées. Et puis ensuite, il y a le réel avec les interprètes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut faire évoluer la pièce?
Alors, évoluer, je dirais... Non, dans le sens où la construction de la pensée était déjà faite. Par contre, ça vient de le transcender. Mmh. C'est-à-dire que l'artiste, en se l'appropriant et puis en rentrant dans l'histoire, en étant... Parce que moi, j'impose pas, en fait. J'arrive en proposant un terrain de jeu. Et quand eux, ils s'en saisissent, ils acceptent d'aller dans ce sens-là, ils le remplissent d'eux-mêmes et donc de leur sensibilité en plus de la mienne. Et donc, ça transporte, ça élève le projet. C'est-à-dire que ça le... C'est pas une transformation, c'est pas une évolution dans le sens de la transformation, ça le modifie pas, mais par contre ça l'amène à une quintessence, à quelque chose d'encore plus beau que ce que moi j'aurais pu porter seul.
Mmh. Ouais. Et en venant du théâtre et de toutes les autres expériences que vous évoquiez tout à l'heure dans votre parcours de metteur en scène, comment est-ce que ça a pu influencer les choses dans cette mise en scène particulièrement pour Iphigénie?
Et ben, y a un petit côté théâtre de marionnettes malgré tout dans la construction du décor, vu qu'on est sur des dispositifs de disparition, de vol. Enfin, il y a quelque chose qui de conception qui pourrait être un peu du théâtre de marionnettes, j'avoue, sur ce projet. Et surtout, c'est au niveau des mots, au niveau du sens des mots et du poids des mots. Là, c'est vraiment, c'est sûr que mon expérience avec Racine, avec des auteurs comme Racine, là, ça m'aide aussi à vraiment enrichir la musique par les mots qui ont été choisis dans le livret et qui viennent, l'importance du mot, en fait. Et l'importance de dire chaque mot les uns après les autres et de pas se lancer dans des grandes phrases, mais de vraiment penser chaque mot, de l'habiter et de lui donner une signification personnelle à chaque fois. Ça, c'est un travail sur lequel moi, je me suis beaucoup attardé avec les chanteurs et qui est d'ailleurs, c'était assez magique parce que Diego Fazolis, qui est le chef d'orchestre, a cette même sensibilité du mot. Donc, on a eu un travail assez extraordinaire depuis un mois sur cette recherche et ce travail-là. Mais ça, c'est vraiment le fait d'avoir pratiqué le théâtre de Racine, de l'avoir mis en scène, mais de l'avoir joué aussi. Ce mâcher, cette articulation des mots dans la pensée aussi. Moi, ça va vraiment venir enrichir mon travail sur Iphigénie.
Et donc c'est une création, c'est tout récent comme mise en scène. Ça, je trouve ça aussi très joyeux, très vivant. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les équipes d'Angers Nantes Opéra? Enfin, il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de, bon, comme on dit, de métiers dans cette maison. Comment ça a pu vous permettre de mettre en scène la pièce?
Bah, c'est une maison assez extraordinaire, Angers Nantes Opéra, parce qu'il y a des équipes fabuleuses, il y a des vrais créateurs aussi, il y a des techniciens très précis à l'intérieur de cette maison. Donc c'est la même chose, le principe de scénographie et de décor et des costumes est arrivé avec moi, avec la présentation de maquette. Mais après, c'est les échanges, le travail en atelier, le fait que chacun se l'approprie et puis justement apporte sa pierre à l'édifice, vienne donner sa sensibilité, son regard, fait qu'il y a une émulation en fait autour de la création des costumes, ou autour de la sculpture des décors, du matiérage, qui fait qu'à un moment donné, ça devient un projet collectif et que chacun vient jouer dans ce terrain-là. Et c'est un peu l'âme de la maison qui est présente sur le plateau, parce que ce n'est plus mon projet à moi, c'était mon projet il y a un an et demi. Maintenant, c'est devenu un projet collectif où on a bénéficié du regard, de l'expérience qui est propre à chacun dans cette maison et qui a embelli, ou en tout cas qui a accompagné la naissance de ce décor, de ces costumes, et qui l'enrichit. Donc ça, c'est vraiment une chance de travailler dans une maison comme celle-là et dans cette configuration-là, parce que ça permet vraiment d'avoir un travail très collaboratif. Moi, j'adore ça. Je viens pas du tout avec l'idée d'imposer un travail, mais je viens plutôt avec l'idée au contraire de pouvoir jouer ensemble et trouver des idées ensemble sur une gamme que j'apporte. Et là, on a, avec Nathalie aux ateliers costumes, ou Alison ou Jean-Pierre aux ateliers déco, on a fait un travail qui était dans ce sens-là, où il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de recherche, et ça donne quelque chose de terriblement abouti et de plus fort, quoi.
Et ça, on peut en avoir un aperçu dans le web documentaire, la web série qui a été réalisée sur tout le travail de mise en scène, les échanges avec les équipes. On en parlait un peu plus tôt avec Alain. Vous nous disiez tout à l'heure, faire un opéra, c'est un petit peu comme faire un film, quelque part, mais en direct. Et vous, votre travail, c'est vraiment de raconter des histoires. Vous, dans cette histoire d'Iphigénie, qu'est-ce qui vous touche particulièrement ?
C'est tellement riche que c'est presque il faudrait presque autant de temps que l'histoire pour la raconter. Mais moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment parlé ou interpellé, en tout cas dans cet ouvrage. J'avais cette notion de Thoas, j'en parlais avant, oui. De cette sorte d'occidental suprême qui possède tout, 90% des richesses mondiales, et qui préfère sacrifier les étrangers dans la Méditerranée plutôt que de les accueillir au risque de devoir partager la richesse dont il sait pas quoi faire. Donc ça m'a vraiment interpellé, cette idée de regard qu'on nous pose par rapport à ça. Et puis il y a la notion de l'innocence qui Iphigénie, elle est forcée par Thoas et par Diane, en fait elle est forcée par Thoas de sacrifier des gens tous les jours à Diane. Et l'ouvrage ouvre sur une espèce d'orage intérieur et extérieur de savoir si elle est encore innocente. Sommes-nous encore innocents? Elles ont les mains pleines de sang et elles se disent, est-ce que à exécuter des gens comme ça, même si c'est pas quelque chose que moi je veux faire, je le fais pour les dieux, je le fais pour la politique, mais c'est pas ma volonté. Donc est-ce que je suis encore innocent? Et alors ça, moi, ça résonne terriblement fort en moi au 21e siècle, à se dire le coup de... Moi, j'ai pas demandé à vivre en... J'ai pas demandé à naître en France. Je suis très content d'y être, heureusement, mais j'ai pas demandé à être là. J'ai pas demandé à avoir cette politique qu'il y a aujourd'hui. J'ai pas demandé à vivre sous un état capitaliste libéral qui fait que pour avoir mon confort de vie, mon téléphone portable avec lequel je vous appelle, ça signifie qu'il y a deux tiers de l'humanité qui vivent dans la pauvreté, qui meurent avant 40 ans, avec les enfants qui meurent dans les mines. Et je me dis, où est mon innocence? Suis-je innocent de vivre dans cette société-là, alors que j'y suis pour rien concrètement? Ou est-ce que le fait de ne pas me révolter, le fait de ne pas prendre position, le fait de ne pas m'opposer, me rend coupable? Et Iphigénie nous renvoie vraiment à cette idée tout au long de l'ouvrage, où se place notre innocence. Et l'innocence, c'est quelque chose qui n'existe qu'une fois. Une fois qu'on l'a perdu, on ne l'a plus. On peut plus le reconquérir. Au reste, c'est vraiment cette idée-là aussi. C'est cette idée de la culpabilité. Il a tué sa mère. Il peut juste être pardonné, mais il peut plus jamais devenir innocent. Tandis que Iphigénie, elle se pose cette question de l'innocence, et c'est quelque chose qui devient obsédant tout au long de l'ouvrage. Et moi qui m'obsède vraiment dans ce questionnement, et que je trouve terriblement troublant, c'est-à-dire où est l'espoir et où se garde notre innocence, et à quel moment on perd ce qui nous reste de plus précieux, en fait.
Ouais, comme on le disait, on sent que c'est très fort, que l'opéra est aussi très lié aux questions qui nous traversent tous les jours, hein, qui sont très contemporaines. Je vais redonner les dates donc de Iphigénie en Tauride, que vous avez mis en scène, Julien Ostini. C'est vendredi, le 23 octobre à 20h au Grand Théâtre d'Angers, et le 25 octobre à 16h. Ça dure 2h30 à peu près, c'est en français surtitré. Et à l'issue du spectacle du dimanche, il y a un bord de scène, vous serez là pour discuter avec le public?
Absolument, de toute façon je suis là à tous les spectacles, donc les gens peuvent m'attendre et je suis ravi de discuter et de rencontrer, d'entendre des avis négatifs ou positifs, mais d'avoir un temps d'échange avec chacun.
Un très grand merci d'avoir trouvé un moment pour intervenir dans l'émission, merci beaucoup.
Je vous en prie, c'est avec un grand plaisir, merci à vous de faire cet entretien et puis de parler de ce projet.
Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de cette émission. Vous pouvez retrouver les podcasts en ligne sur le site de Radio G au www.radio-g.fr à la page de l'Oreille Curieuse. La prochaine avec Angénante Opéra, ce sera le lundi 16 novembre. Nous, on se retrouve demain à 18h10 et nous serons avec le Centre culturel Jean Carmet et Gris Cornac en chair, en os, en voix et en live. Bref, ce sera super. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours. Comment avez-vous trouvé cette émission? Déplorable, formidable. Vous pouvez nous le dire par mail à prog.radio-g@gmail.com ou via les réseaux sociaux de Radio G. À 19h dans 40 secondes, le temps de calculer, vous retrouvez Bande Geek Mafia. Non, j'ai dit une grosse bêtise. Vous retrouvez La Case de Seb. On est lundi et on va parler de bande dessinée. Voilà, je vous laisse avec Seb. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.